Forum.
Forum, Philippe Reva, Laurent Caspary.
Le Premier ministre britannique conservateur David Cameron a été acclamé par ses députés eurosceptiques lors de son intervention tout à l'heure devant la Chambre des communes pour justifier son veto contre un nouveau traité européen. Alors du côté des libéraux-démocrates, partenaires de la coalition gouvernementale, c'est plutôt la soupe à la grimace. Et il y avait un grand absent, Catherine Illich, Nick Clegg, leur chef de file.
Oui, c'était la grande surprise de cette session parlementaire. Nick Clegg, vice-premier ministre, le deuxième homme fort du gouvernement, absent lors de ce débat crucial. Et il n'y a pas de signe plus tangible des profondes dissensions qui existent au sein de la coalition au sujet de l'Europe. Nick Clegg, l'une des figures politiques les plus pro-européennes du pays, avait parlé hier de sa déception amère en faisant référence au nom de David Cameron. Sa présence aujourd'hui aurait sans doute encore davantage exacerber les tensions. D'ailleurs, David Cameron a tenté de calmer le jeu lors de sa déclaration. Il s'est gardé de tout triomphalisme. Il a justifié sa décision défendre les intérêts du pays, mais en soulignant que la Grande-Bretagne restait un membre à part entière de l'Union européenne. Et surtout, il a jugé essentiel le maintien de la coalition gouvernementale.
Alors, est-ce que David Cameron a réussi à calmer les esprits ?
Eh bien, d'une certaine manière, oui, car on ne peut pas dire que le débat était vraiment houleux. Il était plutôt animé, parfois même drôle. Bien sûr, plusieurs libéraux-démocrates ont fait entendre leur mécontentement, mais les attaques les plus virulentes venaient surtout du camp travailliste.
Alors, précisément, Catherine Illich, le camp travailliste, l'opposition, est-ce qu'elle est parvenue à tirer avantage de ce désaccord au sein de la coalition ?
Eh bien, c'était évidemment l'occasion rêvée et Ed Miliband, le chef du Labour, n'a pas boudé son plaisir en remarquant l'absence de Nick Clegg, mais il a surtout critiqué le Premier ministre pour avoir totalement échoué lors des négociations la semaine dernière, d'être rentré les mains vides sans avoir obtenu une seule garantie de Bruxelles. Cependant, ce qu'il n'a pas dit, c'est ce qu'il aurait fait à la place de David Cameron, ce qu'il pensait de cet accord à Bruxelles, s'il l'approuve ou non. Un mutisme sur ce point que David Cameron s'est empressé d'exploiter.
Et qu'en est-il des Britanniques, l'homme de la rue ? Qu'est-ce qu'ils pensent de ce nom de David Cameron ?
Eh bien, pour l'instant, ils ne dérogent pas leur réputation d'eurosceptiques. D'après les deux sondages qui ont été publiés depuis vendredi, une majorité des personnes interrogées, 62% dans le premier cas, 57% dans le deuxième sondage, elles pensent que David Cameron a eu raison d'exercer son droit de veto. Et c'est peut-être pour cela que le chef de l'opposition travailliste ne peut pas attaquer le Premier ministre tout à fait comme il le voudrait.
Catherine Illich, merci, vous êtes notre correspondante en Angleterre. Vous étiez en direct de Londres.
Avec nous en direct de Grande-Bretagne, John Henley, bonsoir.
Bonsoir.
Le chroniqueur du Guardian à Londres. Et puis Mireille Zaki est avec nous, journaliste, rédactrice en chef adjointe de Bilan. John Henley, bon débarras, disait Daniel Cohn-Bendit, c'était il y a quelques semaines dans Forum. C'est ce que pourrait se dire la zone euro, en quelque sorte, bon débarras. Moi, on est entre nous, que des gens qui sont sûrs d'un fait, c'est le bien fondé de l'euro.
Bah, écoutez, c'est vrai que, comme a remarqué à plusieurs reprises Nicolas Sarkozy, pourquoi un pays qui ne fait pas membre de l'euro essaierait d'avoir une influence ou d'assister aux décisions le concernant. Écoutez, il est vrai que les Anglais, les Britanniques n'ont jamais véritablement été au cœur du projet européen. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cela dit, c'est vraiment la première fois qu'un Premier ministre britannique a exercé son droit de veto. Même à la plus grande époque de Madame Thatcher, elle l'a menacé souvent, mais elle n'a jamais vraiment exercé. Et donc pour cela tout seulement, c'est vraiment un grand moment. Hein. Je pense qu'on peut vraiment dire que tout a changé vendredi dernier et que la relation de la Grande-Bretagne avec l'Europe reste à définir.
Plus rien ne sera comme avant. Mireille Zaki, un peu la même question. Pour l'euro, ça peut être une chance, le fait d'être maintenant entre soi en quelque sorte, d'avoir ses propres intérêts, puis la Grande-Bretagne qui était un peu avec un agenda un peu divergent n'est plus là pour influencer.
Oui, tout à fait.
fait. Alors, je pense que ça a le mérite de clarifier les blocs et leurs intérêts différents. C'est-à-dire que Laure Hollande émerge vraiment comme un bloc qui a des intérêts qui lui sont propres, qui a aussi une école de pensée économique différente hein, de celle de la Grande-Bretagne. Il faut dire que la Grande-Bretagne a beaucoup joué sur le modèle keynésien qui consiste à imprimer beaucoup de monnaie, hein, puisqu'elle a le droit de dévaluer la livre sterling. La livre sterling s'est beaucoup dévaluée. Il y a eu de la spéculation immobilière très forte. Et donc, on a eu un mini États-Unis, là, aux portes de l'Europe, avec la City de Londres, qui était aussi le prolongement de Wall Street. Et donc, le point commun entre le Royaume-Uni et les États-Unis était clair, évident, sur les plans financiers, économiques, politiques et militaires.
Mais Mireille Zaki, est-ce que vous allez jusqu'à dire qu'il y avait une sorte de volonté, non pas de nuire, mais disons de... pourquoi pas, oui, parce qu'il y a des intérêts d'État, pour la Grande-Bretagne qui était là un petit peu pour défendre ses intérêts, peut-être parfois contre ceux des Européens.
Bien sûr, pour moi c'est tout à fait évident, il n'y a ni complot ni rien, il y a simplement une guerre économique qui correspond aujourd'hui à une situation de rapport de force tout à fait évidente et normale. Le Royaume-Uni voulait défendre les intérêts de la City de Londres, la City était particulièrement déréglementée, maintenant toutes les lois qui concerne aussi la City et le secteur des hedge funds, c'est-à-dire des fonds spéculatifs, se décide à Bruxelles. Le Royaume-Uni n'est pas content avec ça. La City a aussi beaucoup perdu de sa gloire passée. Elle est un petit peu sur le déclin. Donc, c'est vrai qu'on voit un Royaume-Uni qui veut absolument défendre des privilèges passés, qui veut défendre le statut de la livre sterling, mais qui, en réalité, ne trouve plus vraiment d'avantages à son Sondergang, parce que ses avantages venaient surtout de son alliance avec les États-Unis étant eux-mêmes en grande difficulté financière aujourd'hui et n'étant pas un allié idéal. C'est-à-dire, vous voyez, le Royaume-Uni était le lieutenant des États-Unis en Europe, comme le Japon était le lieutenant des États-Unis en Asie. Et les deux sont en train d'être absorbés par des blocs différents, puisque le Japon est aussi en train de dériver vers l'orbite chinoise aujourd'hui.
Mireille Zaki, on voit bien hein, cet axe Wall Street, la City, mais précisément, est-ce que la City ne prend pas un risque supplémentaire en s'éloignant encore un petit peu plus de l'Europe et en étant encore un peu plus en marge de ce marché européen dont elle fait partie.
La City se durcit dans ses positions eurosceptiques puisqu'elle est vraiment le centre de l'euroscepticisme depuis les débuts de l'euro. Les Tories, les conservateurs britanniques et les financiers de la City ont été absolument catégoriques sur le fait que l'euro n'avait aucune chance et était une très mauvaise idée et n'allait pas survivre. Et donc ils ont pris un chemin antagoniste par rapport à l'euro. Le Financial Times, par exemple, le Telegraph sont des journaux notoirement eurosceptiques. Donc il y a cette culture qui fait que le Royaume-Uni aujourd'hui se durcit dans ses positions et proclame même un nouvel empire européen et voit ça d'un très mauvais œil puisque cet empire, entre guillemets, qui réglemente à Bruxelles très fortement, eh bien le défi, le challenge est affaibli le Royaume-Uni. Mais Wikileaks avait quand même révélé que les Britanniques entre eux discutaient d'un rapprochement à terme de l'Union européenne, parce qu'ils deviennent demandeurs, en réalité, sur le plan économique.
Oui, John Hadley, on voit bien la difficulté, le danger aussi pour la Grande-Bretagne d'être un peu seule. On parle parfois sur les réseaux sociaux aussi, quelques politiques. Le marché unique a un prix, il faut le payer si on veut en être. On voit les menaces voilées. Pour la Grande-Bretagne, c'est un pari, hein.
Oui, tout à fait, c'est un pari très risqué. Je pense que sur le plan de l'euro, il est évidemment beaucoup trop tôt pour dire si oui ou non la décision de Cameron a été la bonne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de financiers à la City qui disent tout simplement que l'accord conclu à Bruxelles la semaine dernière représentait comme ils disent ici, un bus qui partait dans la mauvaise direction. Et si on croit que le bus part dans le mauvais sens, vaut mieux descendre tout de suite. Donc il y en a beaucoup qui prédisent la fin de l'euro dans les 4-6 mois à venir. Et si ça s'avère être véritablement le cas, bah alors ça aurait été plutôt une bonne décision.
Mais politiquement,
c'est là où c'est risqué, parce qu'il est vrai que la Grande-Bretagne a toujours réussi jusqu'ici, même en s'opposant à plusieurs politiques européennes, a toujours réussi à rester à la table de négociations. Et là, pour l'instant, on n'y est plus.
Mais John Hadley, on a entendu Mireille Zaki et les intérêts convergents, les Américains. On dit les Anglo-Saxons en règle générale, les Anglais, les Américains.
Oui.
Pour peut-être que ça ne fonctionne pas, l'euro. Alors, ils disent ça ne va pas fonctionner, mais parfois c'est autoréalisateur. Bon, on ne parle pas de complot, mais il y a quand même une envie que ça ne fonctionne pas et une stratégie là derrière.
Non, ça, j'y crois vraiment pas du tout. L'économie britannique serait tout à fait serait touchée tout autant que le reste de l'Europe dans le cas d'une chute si l'euro coule. C'est une très 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 mauvaise nouvelle pour l'économie britannique aussi. L'Angleterre a tout intérêt à ce que l'euro continue à exister. Ça représente entre 40 et 50% de nos exports.
David Cameron, il a pris un gros risque. Il est isolé au sein, contesté au sein du Parlement. On a entendu Catherine Illich aussi. Hein. Nick Clegg n'était pas là. Est-ce qu'il a pris un risque politique important?
Il a pris un risque dans le sens où je pense que ça va être difficile hein, pour la coalition. C'est vrai que ça va être très difficile pour le Parti libéral-démocrate, donc les partenaires dans la coalition, à avaler cette décision. Cela dit, je pense que c'est la première fois que les libéraux-démocrates sont au pouvoir. Ils vont pas jouer leur avenir sur une révolte à ce stade-là. Je pense qu'à ce moment-là, tout le monde souligne l'importance de la coalition pour que l'économie puisse
unie. Mireille Zaki, peut-être pour conclure avec ça, on a entendu John Henley qui dit elle a besoin de l'euro, elle a besoin que l'euro aille bien, la Grande-Bretagne, c'est un danger pour elle aussi si ça ne fonctionne pas bien. C'est vrai ça?
Non, moi je suis convaincue que ça ne dépend pas de la monnaie. Le fait que l'Europe continentale soit un marché d'exportation pour l'Angleterre, ça précédait l'existence de l'euro, donc ça ne dépend pas du tout de la monnaie. Par contre, la monnaie est un symbole politique de leadership aujourd'hui franco-allemand que la Grande-Bretagne ne souhaite tout simplement pas suivre parce qu'elle a voulu défendre le marché financier offshore britannique qui est aujourd'hui clairement menacé par la réglementation européenne. Donc les privilèges de ce marché offshore qui existait dans l'indépendance et dans l'autonomie et faisait la gloire de l'Angleterre, une économie extrêmement financiarisée d'ailleurs au même titre que les États-Unis, eh bien ces privilèges sont en train de se perdre et si Londres perd vraiment la compétitivité de la City de Londres, il se pourrait même que dans la décennie qui vient on assiste à l'impensable. Sir John Major était récemment à Lausanne et m'a dit que c'était impensable, mais il parlait beaucoup plus dans l'émotion que dans le réalisme, eh bien au rapprochement de la Grande-Bretagne, de la zone euro et peut-être à une adhésion, puisque la livre sterling ne remplit plus la fonction qu'elle avait en temps de soutenir la finance anglo-saxonne et le common law anglo-saxon.
Ouais, John Major, on imagine que l'émotion au moment de dire qu'elle pourrait abandonner la livre sterling, cette Grande-Bretagne dont on parle beaucoup en ce moment. Je remercie John Henley en direct de Grande-Bretagne. Mireille Zaki avec nous. Une dernière question, Mireille Zaki. Oui. La fin du dollar, hein, c'était votre livre. Vous disiez... C'est assez courageux aussi, hein. Vous disiez il y a quelques semaines, quelques mois, ouais, il faut plutôt miser sur l'euro, mais vous maintenez toujours, oui?
Alors oui, absolument,
d'accord.
Car les réalisations qui avaient été anticipées, d'ailleurs par le Laboratoire européen d'anticipation politique, hein, que c'était dans mon livre, c'est-à-dire l'émergence d'un Euroland avec une gouvernance renforcée, ça c'est prometteur d'une monnaie qui tient le coup, qui est forte. D'ailleurs on voit que le taux de change entre l'euro et le dollar est en faveur de l'euro, reste fort, à plus de 1,33, entre 1,30 et 1,40 en fait, et je crois tout à fait à la survie de l'euro et au renforcement de l'Euroland aux dépens de la coquille un peu vide que devient l'Union européenne. Tout à fait, je maintiens.
Tout à votre honneur, Mireille Zaki. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Au revoir.
Au revoir.
Et de la Grande-Bretagne, on va passer à la France, où les candidatures à la présidentielle se multiplient au centre et à droite. Il y a évidemment François Bayrou avec le Modem, et puis la liste comprend également le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, la chrétienne démocrate Christine Boutin, le centriste Hervé Morin, l'ancienne ministre Corinne Lepage et le chasseur-pêcheur Frédéric Nihous. Liste qui depuis hier soir s'est allongée du nom de Dominique de Villepin, l'ancien fidèle de Jacques Chirac. Autant de candidatures qui risquent de provoquer un éparpillement des voix et qui pourraient se révéler dangereux pour Nicolas Sarkozy au premier tour.
Jean-François Kahn, vous votez de nouveau Bayrou hein, cette fois-ci. 13% des intentions de vote, François Bayrou, le centriste, juste derrière Marine Le Pen. Vous venez un peu à vos premières amours, vous y croyez toujours à Bayrou?
C'est pas ça, je crois que c'est un peu un réflexe un peu patriotique chez moi. C'est-à-dire que je ne veux pas dire que je suis à 100% d'accord avec François Bayrou, ni que je n'admets pas qu'il puisse avoir des défauts. D'ailleurs, il faudrait quand même s'habituer à ce qu'on puisse soutenir quelqu'un tout en gardant son esprit critique. Ce qui est incroyable quand même, c'est les militants sarkozistes qui se conduisent comme des caniches vis-à-vis de leur leader. Oui, c'est quand même impossible.
Le président sortant, hein, et il a une certaine légitimité à se représenter.
Non, c'est pas ça, c'est qu'ils n'en croient pas un mot ce qu'ils disent. En privé, ils disent des choses, et puis tout à coup, en public, alors d'abord, ils récitent un truc qu'on préenregistre. Même leurs aboiements sont préenregistrés.
C'est
quand même cas pour un caniche. Et alors, non, moi, c'est un espèce de réflexe patriotique.
Pourquoi c'est patriote de voter Bayrou?
Oui, non, je me suis dit, au fond, quel est le président dans la situation actuelle? Dans la situation, d'abord, de l'Europe, de la France, compte tenu des impératifs de prendre des mesures courageuses, de rigueur juste, pour essayer de dynamiser un redressement. Quel est le président qu'il faudrait? Et je me suis dit, au fond, Bayrou serait peut-être le président qui correspondrait le mieux à cela pour la France aujourd'hui. Voilà. C'est en ce sens que c'est de ma part une réaction patriotique.
Jean-François Kahn, est-ce qu'on pourrait imaginer dans un scénario un peu catastrophiste un remake de 2002, mais à droite cette fois-ci? Parce qu'on l'a vu, hein, François Bayrou, il fait 13% pour l'instant d'intention de vote, et puis il y a tous ces petits candidats qui cumulent un petit pourcentage par-ci, par-là.
Franchement, je ne crois pas du tout. Je pense que ce n'est pas très important cet éparpillement, pour deux raisons. D'abord, parce que beaucoup n'iront pas jusqu'au bout. Il faut avoir les 500 signatures, il faut avoir un minimum d'argent, donc beaucoup n'iront pas jusqu'au bout. Mais l'intérêt d'être candidat, c'est que vous passez à la télévision et à la radio.
Donc, on connaît ça ici aussi, oui.
Ouais. Et donc, plus longtemps vous pouvez être candidat, plus longtemps vous êtes invité dans des débats, la radio, la télé, etc. Donc ça vaut la peine, quitte à vous retirer au dernier moment. La seconde, c'est qu'il y a un vote utile absolument incroyable. C'est-à-dire que vous avez ceux qui voteront Sarkozy parce qu'ils sont fans de Sarkozy, il y en a d'autres qui ne veulent pas de Sarkozy, et ça devient, c'est un élément de cassure terrible. Et donc le vote utile va être très très fort, on le voit bien. Regardez, il se passe quelque chose d'incroyable actuellement, sur lequel vous devriez réfléchir, mais totalement illogique, mais incroyable. C'est que la gauche, on ne peut pas être plus mauvais qu'elle est aujourd'hui dans sa campagne électorale. Mais c'est absolument terrible. La droite attaque Hollande sur le thème « c'est un mou », etc. Et Martine Aubry dit « c'est un mou », et Mélenchon dit « c'est un capitaine de pédalo ».
Et vous le redites ce soir.
Et Joly dit, il est du bois dont on fait des marionnettes. Enfin, c'est absolument épouvantable. Normalement, ils ont un candidat face à Eva Joly, c'est un candidat écologiste. Et ils font un programme commun avant l'élection, où ils donnent l'impression d'échanger des centrales nucléaires contre des circonscriptions. En plus, ils ont le scandale de ceci, de ça.
C'était assez mal fait, au début.
C'est épouvantable. En face à eux, ils ont un candidat excellent. On peut penser ce qu'on veut de Sarkozy comme président, mais c'est un très très bon candidat, efficace, professionnel, il ose tout, il se sert de l'appareil d'État, dans aucun pays d'Europe on pourrait faire ça, mais il se sert totalement de tout l'appareil d'État pour faire sa campagne, il utilise la télévision, etc. Normalement, Sarkozy devrait s'envoler, et surtout Hollande devrait absolument s'effondrer. Eh bien ça ne se passe pas. C'est incompréhensible, mais ça ne se passe pas. Parce que d'abord, il y a un rejet de Sarkozy très fort, je constate, voilà. Et donc, le vote utile est tel qu'on a l'impression quelquefois qu'il y aurait une girafe d'un côté et un rhinocéros de l'autre. Il voterait quand même pour.
Mais Bayrou, franchement, ça n'a pas l'air non plus d'être le fauve qui va mettre tout le monde d'accord entre nous, soi-disant.
Ah non, alors, il y a l'élection, il y a un peu une exception pour Bayrou, pas au début, parce que le vote utile lui était défavorable également. Mais si en effet, il fait des sondages à 13, à 14 ou à 15, alors là, il peut y avoir une réaction, finalement, c'est une autre façon de voter utile.
On disait ça il y a 5 ans déjà. Hein.
Oui, mais attendez, il y a 5 ans, je vous signale. Attends, vous êtes absolument incroyable, mais incroyable.
Si je vous désespère, Jean-François Kahn.
Il y a 5 ans, tout le monde lui disait, il va pas faire 6, il va faire 8, 9, etc. Le mec, il fait 19. C'est une révolution, on n'a jamais vu ça, etc.
Jean-François Kahn, Dominique de Villepin, pour l'instant, il est 1%. Il se lance hier soir.
Moi, je pense qu'il y a 6 mois, il aurait été un excellent candidat, je pense, vraiment. Aujourd'hui, non, parce qu'il a attendu, on ne sait plus où il est, on ne sait plus où il va.
Il est tout seul aussi.
Il est tout seul, il y a un nouveau scandale qui l'éclabousse, donc on a l'impression que c'est en réaction d'orgueil par rapport à ce scandale. Donc franchement, je n'y crois pas trop.
Jean-François Kahn, je vous remercie beaucoup de nous apporter vos lumières sur la France de temps en temps. Revenez bientôt sur Bayrou, Villepin et les autres.
Bon, mais je vous dis, faut pas se faire d'illusions. Il y a 4-5 candidats. Regardez Mélenchon, un exemple, excusez-moi, mais Mélenchon. normalement, il y a un boulevard devant lui. Attendez, crise économique, crise financière, le candidat de gauche est en vérité un candidat centriste, un candidat du système. Comme, au fond, il y a deux candidats du système, Sarkozy et Hollande. Bon, et normalement, il y a un boulevard. Et il fait 6, 7. C'est-à-dire que le processus du vote utile, aujourd'hui, est incroyablement prégnant.
Il faudra voir Marine Le Pen, encore Jean-François Kahn, ce qu'elle fera
moi,
à la fin.
Je pense qu'elle va faire un très beau score. Je sens qu'elle va faire un très beau score. Maintenant, tous les sondages ne le prouvent pas. Hein. Le dernier sondage n'est pas forcément très bon pour elle. Mais moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'elle a trouvé un ton qui accroche, en particulier un électorat très populaire, et je pense qu'elle va faire un très bon score.
Une bonne soirée, Jean-François Kahn.
Il y a un scandale que personne n'a réagi, c'est qu'elle devait aller parler à Dauphine, à l'université Dauphine, ouais. Et il y a eu des manifestations qui l'en ont empêché. Et où sont les défenseurs de la démocratie, des droits de l'homme, du libre débat ça, ouais, et personne n'a protesté contre ça. Et ça la sert. Ça,
c'est un autre chapitre qu'on ouvrira. Mais on reviendra avec vous sur toute cette actualité française en ces derniers mois avant les élections. Jean-François Kahn, vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.
Merci.
Et le budget du canton de Genève doit être voté en fin de semaine. Le déficit prévu est de plus de 350 millions de francs. Un budget déficitaire qui divise la droite et la gauche, ça c'est pas vraiment une surprise, mais un budget qui déchire aussi l'alternative rose-verte, puisque les socialistes ne le voteront pas, et que les Verts, eux, eh bien, souhaitent le voter coûte que coûte, selon les souhaits de leur grand argentier David Hilaire.
Avec nous, Anne-Émerie Torracinta, socialiste, députée à Genève, vice-présidente de la Commission des Finances, rapporteuse de minorité, Émilie Flamand, une alliée verte, députée également, membre de la Commission des Finances, vice-présidente des Verts aussi, Émilie Flamand. Je vous dis bonsoir, mesdames.
Bonsoir.
Émilie Flamand, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes censée être à gauche, les Verts. C'est parce que David Hilaire est vert et c'est lui le ministre des Finances, vous êtes obligé de le suivre?
Non, les Verts ont une capacité de réflexion qui dépasse celle de leur ministre. Il y a des fois où on n'est pas d'accord avec nos ministres. Cette fois-ci, les Verts souhaitent voter le budget. Je pense pas que ça signifie que les Verts soient à droite pour autant. Et finalement, nous avons une réflexion assez proche de celle de nos alliés socialistes. Simplement, c'est à la fin la décision, la pesée d'intérêt qui penche un petit peu dans l'autre sens. Mais je crois que sur le fond, nous sommes tout à fait proches.
Anne-Émerie Torracinta, les Verts aujourd'hui, c'est un peu la démonstration qu'on peut être, disons, raisonnable. C'est la gauche qui sait compter, qui voit là où, quand même, parfois, il faut savoir économiser.
Écoutez, je ne sais pas si c'est raisonnable que de savoir compter particulièrement. Je pense qu'on compte tout aussi bien que les Verts. Émilie Flamand l'a dit, je crois qu'on est assez d'accord sur le fond. C'est vraiment une question de stratégie. En ce qui concerne les socialistes, nous estimons qu'une bonne partie du déficit est liée à des baisses fiscales qui ont été votées par le Parlement puis par le peuple il y a 2 ans, qu'on estime à plus de 400 millions de pertes pour le canton en 2012. Et nous étions d'accord avec un plan où on pouvait faire des économies, on pouvait même éventuellement discuter de la fonction publique, mais il fallait en parallèle que les recettes augmentent et qu'on supprime certaines niches fiscales. Et à ce niveau-là, le PLR, la droite, l'UDC refusent catégoriquement, ils disent bien que c'est dans leur gène, ils refusent catégoriquement toute hausse fiscale. Dans ces conditions, on ne pouvait pas accepter un budget où on a fait des coupes linéaires, on s'est attaqué à la fonction publique, et c'est simplement pour cette raison-là qu'en l'État, on refuse.
Qu'est-ce qui vous le fait accepter, Émilie Flamand, alors, sur ces questions qui viennent d'être évoquées?
Alors, il est vrai que le plan de mesure du Conseil d'État propose des coupes qui étaient directement intégrées dans le budget et des hausses fiscales qui, par leur nature même, doivent être votées dans des projets de loi, puis par le peuple, donc on ne pouvait pas intégrer directement dans le budget. Nous ne renonçons absolument pas à ces hausses fiscales que nous soutiendrons, puisque ce sont vraiment des hausses fiscales qui concernent des niches, qui concernent des petites parties de la population et qui ne concernent pas la classe moyenne, par exemple. Simplement, là, il est vrai que la question était de savoir si on voulait avoir un budget au 1er janvier. Et si on n'avait pas de budget, ça signifiait partir en 12e provisoire. Et ça, les Verts considéraient que c'était extrêmement néfaste pour l'État et pour l'ensemble de la société. C'est par exemple la subvention au TPG qui n'augmente pas. Alors on a une très belle voie de tram qui va jusqu'à Bernay qui a été inaugurée il y a 2 jours. Il aurait été dommage selon nous de ne pas voir de tram rouler sur ces rails.
Donc tant pis si le budget n'est pas parfait, l'important c'est d'en avoir un au 1er janvier.
Alors, c'est pas le seul argument. Nous avons regardé, étudié les coupes qui ont été faites. Dans la première lecture du budget, des coupes ont été faites à la hache dans tous les sens. Et cette première version était pour nous totalement inacceptable. Ça a été revu dans un deuxième temps. Et pour nous, les missions fondamentales de l'État ne sont pas touchées. La plupart des prestations sont garanties et l'État pourra fonctionner avec ce budget. Ce n'est pas le budget idéal des Verts, mais la plupart des choses auxquelles nous tenons ont été conservées. Dans ce sens-là, nous estimions que nous pouvions voter ce budget.
Elle méritera Saint-A des rails et puis pas de tram qui roule dessus. Bon, ça pourrait être une spécialité genevoise, pourquoi pas, mais enfin, c'est résumé comme ça. Le problème, qu'on n'a pas de budget, là, il y a urgence, il faut le voter.
Non, je crois pas. Nous, on n'était pas du tout pour avoir des 12e et attendre trop longtemps. L'idée était de pas se précipiter. On a fait des coupes, contrairement à ce que pensait Émilie Flamand, qui ont été faites absolument à toute vitesse, sans réfléchir, votées par la majorité de la commission des finances, avec des coupes qui touchent essentiellement le DIP, qui touchent l'université, qui touchent aussi les HUG. Et pour ça, pour nous, ça c'était absolument pas acceptable. Donc, ce qu'on aurait voulu, c'est simplement qu'on prenne le temps de bien regarder où on pouvait économiser en gardant en lien avec le terrain ce qui se passe. Et puis d'un autre côté, obtenir un accord d'une majorité des partis qui siègent au Grand Conseil pour voter les hausses fiscales. Et on aurait pu à ce moment-là voter tout ça ensemble, peut-être début janvier. Donc pour nous, c'était simplement d'attendre en faisant un travail sérieux, ce qui n'a absolument pas été le cas à notre sens.
Anne-Emery Torracenta, quelle est l'ambiance entre les Verts et les socialistes à Genève? On sait que du côté de la ville de Genève, c'est pas facile non plus. Là, on voit qu'il y a clairement des divergences. C'est d'ailleurs pas la première fois, et c'est pas seulement à Genève, qu'entre les partenaires rose-vert, on se déchire, on se positionne différemment. Des tensions particulières à Genève?
Non, je crois pas. Puis vous dites on se déchire. Je parle pas du tout de déchirement, loin de là. Je crois que c'est, on l'a dit, ce sont des questions de stratégie. Si on était totalement identique, ben on formerait plus qu'un seul parti. Et je crois qu'il y a des nuances, il y a des appréciations. C'est clair que là, on devra avoir des discussions peut-être par rapport à l'avenir budgétaire. C'est vrai que les Verts avaient soutenu à l'époque la baisse fiscale. Nous, on était contre parce qu'on pensait qu'elle allait trop loin. Oui, aux baisses fiscales pour les familles, mais pas aux baisses fiscales en faveur des fortunés et des privilégiés. Et voilà. Et après, c'est une question d'appréciation.
On peut résumer, Émilie Flamand, vous n'êtes pas d'accord, mais enfin, vous êtes de bonne composition, vous le faites avec les manières.
C'est-à-dire, de temps en temps, on n'est pas d'accord. Je rappelle que sur la très grande majorité des sujets, nous votons avec nos alliés socialistes et nous avons des programmes qui sont extrêmement similaires. Encore une fois, si nous votions tout le temps ensemble, ça ne vaudrait plus la peine d'avoir deux partis. On a nos spécificités, ce qui est normal, mais ce n'est pas pour autant, pas parce qu'on a un vote divergent que ça signifie qu'on se déchire et qu'on se haït.
Oui, ça manifestement, non. Un seul parti, mais pourquoi pas, Émilie Flamand, un jour. Vous savez, les fusions, c'était la mode dans le monde politique.
Je croyais qu'à la RSR, vous vouliez nous fusionner avec les Verts libéraux. Alors, ça va commencer à faire un très très grand parti. Mais bon, là, du coup, ça nous assurerait au moins un siège au Conseil
Absolument.
Fédéral.
Absolument. Vous savez, les vœux de la RSR ne vont pas aussi loin. Merci beaucoup, Émilie Flamand. Et puis, Anne-Emery Torracenta. Je vous souhaite une excellente soirée.
Bonne soirée. Bonsoir.
Après Alain Berset, vendredi, on a reçu tout à l'heure Pierre-Yves Maillard. Le candidat socialiste sera fixé ce mercredi matin sur son sort. Nous avons commencé avec une première question sur cette fameuse lettre qu'il a envoyée à tous les parlementaires. Un élu roman s'était étonné de l'avoir reçue en allemand. Erreur corrigée, Pierre-Yves Maillard.
J'ai appelé M. Gschwind et puis on lui a envoyé une lettre en français, mais qui n'a eu qu'une seule erreur apparemment, c'est encore pas trop important. Mais je tenais à faire ça parce que d'abord, je pense que c'est très important qu'une telle candidature se fasse sur du contenu, comme je l'ai fait jusqu'à présent, en annonçant des positions et en faisant des propositions de contenu. Je trouve que c'est vraiment le moment ou jamais.
Alors votre lettre, il semble qu'elle est plus surtout à des UDC ou à des libéraux radicaux. Est-ce que vous assumez le fait que visiblement vous avez davantage de succès qu'Alain Berset auprès de l'UDC?
C'est difficile de juger. Je lis quelques déclarations dans ce sens.
Ça vous surprend, ça?
Ça me surprend, mais en même temps, il y a à la fois le contenu, ce que je propose, puis il y a à la fois le fait de proposer, le fait d'être clair, le fait de d'avoir une ligne.
Donc c'est plutôt dans le style que vous séduisez, plutôt que dans le contenu.
Quelle est la part? Quelle est
la part? C'est le contenu.
Bah, quelle est la part entre le fait justement d'annoncer la couleur, d'être précis, d'être clair? Et puis l'accord vraiment avec les propositions, ça c'est difficile pour moi d'y répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur certains points, je pense que le mode d'élection du Conseil fédéral le démontre. Je l'avais dit il y a déjà longtemps, mais je pense qu'on voit que dans une situation vraiment de polarisation, de concurrence entre les partis, le mode d'élection que nous avons est vraiment pas le meilleur. Il y a certains aspects sur le libre-échange. Alors moi, je suis critique sur cette idéologie du libre-échange à tout prix dans de nombreux secteurs, mais aussi dans le secteur agricole. Alors apparemment, dans le secteur agricole, évidemment, ça plaît. J'avais d'ailleurs, en retravaillant, puisque tout à l'heure je vais au hearing avec les milieux agricoles, j'ai retrouvé qu'en 2003, au moment de l'abandon du contingentement laitier, j'avais fait une proposition pour dire qu'il ne fallait abandonner le contingentement laitier, c'est-à-dire libéraliser le secteur laitier, qu'une fois qu'une vraie alternative confiée à la branche, c'est-à-dire où les producteurs eux-mêmes et leurs représentants puissent gérer les quantités de lait avec force obligatoire et qu'on ne le fasse pas avant. Malheureusement, j'avais pas été suivi. Je constate que maintenant, c'est justement ce que les paysans eux-mêmes demandent. Donc cette critique de cette mode du libre-échange à tout prix, de même avec ce qu'on a fait dans le domaine du cassis de Dijon, cette espèce de croyance que le marché peut tout régler, mieux que la rationalité des décideurs, je trouve qu'elle a quand même, on a pu en revenir.
Pierre-Yves Maillard, deux jours avant l'élection, vous courez dans tous les sens, j'imagine, c'est un moment pour vous, c'est dur?
C'est dur, ouais, c'est une période un peu dure parce que, évidemment, j'ai aucune intention de négliger mon travail, le mandat que le peuple m'a confié, qui est d'être conseiller d'État en charge de ce département. C'est d'habitude déjà dur le mois de décembre, sans cette candidature en plus. Et c'est d'autant plus dur cette fois que, beaucoup de milieux, de services se disent, si par hypothèse, je devais partir à la fin de l'année, il faut régler un certain nombre de choses. Donc, c'est probablement une des phases les plus intenses que j'aurais eues.
Justement, qu'est-ce que vous faites si vous êtes élu le 14 décembre, la transition? Vous savez que vous n'aurez pas de vacances à Noël, vous devez tirer un trait.
Écoutez, chaque chose en son temps. Voyons déjà ce qui se passe le 14, après j'aviserai, je verrai bien. On trouvera les moyens pour essayer que ça se passe au mieux pour tout le monde. Parce que moi, je dois quand même prendre congé si ça se passe. Ici, il y a des gens avec qui je travaille depuis 7 ans, il y a des dossiers qu'il faut finir avec le Conseil d'État.
Ça veut dire quoi? Le conseiller fédéral et ministre pendant quelques semaines?
Je verrai le cas échéant, il faut déjà passer le 14, on verra.
Si on demande aux chasseurs de tête ce qui pousse les gens à avoir des postes à responsabilité, surtout quand, comme conseiller fédéral, c'est quand même très astreignant, parfois on peut le dire aussi mal payé, si on pouvait avoir un autre métier éventuellement, sa famille on la voit plus, c'est quoi? C'est pouvoir, argent ou reconnaissance? C'est quoi qui vous pousse, vous, Pierre-Yves Maillard?
J'ai jamais été recruté par aucun chasseur de tête, ça doit être pour ça, c'est parce que...
C'est ni l'un ni l'autre.
Tout ça, le pouvoir, évidemment, qu'on le souhaite si on brigue ce genre de fonction, mais on le souhaite dans le sens de pouvoir faire des choses. Le pouvoir, pour le pouvoir, moi, je dois dire, j'ai pas un goût particulier de donner des consignes ou des ordres à mes semblables. Je le fais parce que j'estime que ça va dans le sens de progrès pour les causes que je défends, pour les gens que je défends. Et puis, c'est ça le sens, voilà. Moi, c'est la seule motivation pour supporter les difficultés de ce type de tâche.
On peut dire pouvoir, alors?
Le pouvoir de changer les choses, ouais. La possibilité de faire évoluer. Quand on fait de la politique, on cherche à faire évoluer concrètement la situation autour de soi, voilà.
Pierre-Yves Maillard, si vous êtes élu, ou Alain Berset aussi d'ailleurs, a priori c'est ça pour devenir ministre des Affaires étrangères, c'est possible qu'il y ait des changements, mais enfin c'est disons, le plus probable, sauf surprise. Quelques questions, peut-être si vous êtes dans les habits de ministre des Affaires étrangères pour la Suisse. Un accord avec l'Iran, par exemple, pour acheminer du gaz, il y en a eu quelques velléités à un moment donné, on en avait pas mal parlé. Vous êtes prêt, vous, à faire ce genre de, pragmatiquement, comme ça, de contrat?
Je peux évidemment pas vous répondre maintenant, c'est justement le genre de décision un peu sensible qui doivent engager tout le collège et qui doivent être discutées. Un des problèmes dans le domaine des affaires étrangères, c'est le problème d'ailleurs d'un gouvernement à l'échelle nationale, c'est de concilier des valeurs démocratiques, des valeurs politiques, enfin des valeurs que la Suisse d'ailleurs à part ça incarne et qu'à mon avis on devra défendre de manière très très active, et puis des intérêts. Voilà, et ça fait partie des difficultés.
Mais là, vous n'avez pas la réponse dans le cas précis.
Non, j'ai pas la réponse dans le cas précis, mais je dois ici dire que je pense, de manière générale, que nous avons intérêt à essayer le plus possible de concilier ces impératifs qui sont parfois contradictoires.
Concilier les impératifs.
Veut dire ne pas négliger les valeurs, parce que à la fin, on l'a vu. Certains croyaient, même si moi je suis toujours fasciné de voir la rapidité de conversion d'un certain nombre de gouvernants, mais tous ceux qui croyaient que la Libye, par exemple, on pouvait passer sur un certain nombre d'infractions à des valeurs de base et commercer avec elles, l'accueillir, recevoir ce dirigeant...
C'est pas votre
même
genre.
Aux portes du pouvoir, lui faire toute une série de complaisances, et puis pour ensuite envoyer des avions le bombarder quelques mois plus tard, disons.
Ahmadinejad, par exemple,
je plaiderais plutôt, si j'ai cette fonction, pour essayer de respecter au mieux nos valeurs, ce qui évidemment n'empêche pas d'avoir des contacts, d'avoir des échanges. Le problème est d'être le plus proche de ces valeurs possibles.
Pour rester assez concret, le Hamas, par exemple, un interlocuteur pour la Suisse, à votre avis, quand il s'agit de faire négocier Israéliens et Palestiniens, on parle avec eux?
Je crois que dans le conflit israélo-palestinien, il y a un intérêt à essayer d'être présent avec l'ensemble des partenaires. Je pense que c'est l'une des clés pour qu'on puisse véritablement faire avancer, mais si c'est possible, ce dossier. C'est clair que quand il y a un conflit... D'abord, toutes les parties au conflit font des choses qu'on peut réprouver, c'est quand même fréquent. Et puis, chaque partie au conflit essaye de faire de l'autre quelqu'un de non fréquentable pour l'ensemble de la communauté internationale. une position là de neutralité active que je défendrais, me semble, devrait permettre que des échanges et des dialogues aient lieu.
D'ailleurs, l'Europe est dans une situation très très délicate, c'est notre principal partenaire. La libre circulation aussi est de moins en moins bien perçue en Suisse. Qu'est-ce que vous ferez pour rétablir la confiance entre la Suisse et l'Union européenne ?
Là, c'est à mon avis, paradoxalement, presque davantage une question de politique intérieure. On a fait cet accord, il y a ces mesures d'accompagnement, elles sont manifestement insuffisamment appliquées, il n'y a pas assez de contrôle, les sanctions sont trop douces. Donc l'essentiel pour moi, c'est de vraiment continuer à renforcer ces mesures. Le Conseil fédéral maintenant, je l'ai constaté avec plaisir, s'est rallié à cette approche. Tout le monde maintenant dit qu'il faut intensifier les contrôles. Je donne un seul exemple. Si on avait ne serait-ce que 20% de fonctionnaires qui font des contrôles sur le marché du travail, qu'on en a pour contrôler les parcs-mètres dans nos villes, on aurait probablement déjà doublé les effectifs. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. Mais pour ça, il faut une volonté politique.
Un contrôleur par chantier, ça
demande... Non, justement, on a probablement plusieurs dizaines de personnes qui contrôlent les parcs-mètres dans chacune de nos villes, et on a quelques unités d'inspecteurs de travail. Donc même si on les double, on arrivera peut-être pour un canton comme le mien, le canton de Vaud, 10, 12 inspecteurs. C'est vraiment modeste. Mais on pourrait au moins être beaucoup plus présent. Et puis après, il ne suffit pas simplement de contrôler, il faut encore sanctionner. Il faut tout simplement que pour un employeur, ce soit dissuasif de faire venir quelqu'un pour le payer moins ou pour le faire travailler beaucoup plus que ceux qui sont déjà sur notre marché du travail. Si on arrive à faire que chaque employeur se dit « oulala, je risque beaucoup trop de faire ça », alors l'intérêt de faire venir des forces de travail chez nous va baisser. Et donc, on va utiliser beaucoup plus les forces de travail qui sont déjà chez nous, qui sont au chômage, qui sont à l'aide sociale et qu'on pourrait qualifier pour faire toute une série de métiers.
Le fonds de cohésion, on a dû payer 1 milliard, puis rajouter 300 millions à l'époque pour la Bulgarie, la Roumanie. Certaines voix à Bruxelles aimeraient renouveler ce don de la Suisse, entre guillemets, à la cohésion. On le fait ou on le fait pas? On repaye 1 milliard?
Moi, je suis plutôt... Surtout que je crois qu'on peut imaginer qu'il y ait un rendement de ces placements. Si on peut permettre à des pays en difficulté d'avoir plutôt des prêts publics ou internationaux avec des taux raisonnables plutôt que de devoir se servir sur le marché des capitaux avec des taux de 7 ou 8%, bah pour celui qui prête, il y a un rendement. Pour celui qui reçoit, c'est moins usuraire. Et puis, dans l'ensemble, ça permet de stabiliser le système.
Le Dalai Lama, on le reçoit avec les honneurs comme chef d'État ou est-ce qu'on le planque un peu comme on fait dans beaucoup de pays aujourd'hui sous pression de la Chine ?
Monsieur Reva, je ne pourrais pas répondre à toutes ces questions n'étant pas en fonction. C'est des décisions de collège.
Vous avez une idée ?
Moi, j'ai une petite idée. Je pense que ce qu'a fait Ruud Dreyfus, par exemple, à l'époque, était courageux. Voilà, je peux dire ça. Maintenant, après, il y a un collège qui doit avoir une appréciation. Vous savez, si vous faites la liste des chefs d'État pour me demander si je suis prêt à leur serrer la main, chacun d'entre eux, ça va rallonger le peu de temps qu'on a à disposition.
Mais on note, Pierre-Yves Maillard, le modèle Dreyfus, Ruud Dreyfus, vous avez dit aussi.
J'ai de l'admiration pour elle.
Neutralité active, vous avez dit aussi. On note aussi, ça c'est dans la lignée de Micheline Calmiret. Oui. Une question précise, on en a donné une de ce genre-là à Alain Berset. Vous connaissez le nom du commissaire européen à l'énergie, par exemple ?
Non.
Pierre-Yves Maillard, êtes-vous plutôt euro ou plutôt livre anglaise ?
Moi, d'abord, on a le franc. Et moi, je suis de ceux qui... Et ça, c'est un débat intéressant. On l'a mené au sein du Parti Socialiste. J'ai été de ceux qui ont plaidé pour qu'on envisage une adhésion seulement dans l'hypothèse où on peut garder notre souveraineté monétaire. Je ne pense pas que l'hypothèse d'une adhésion de la Suisse, qui est pour l'instant évidemment assez peu probable compte tenu de la crise que connaît l'Europe et de la faible acceptance qu'a cette hypothèse au sein de la population, je ne pense pas que, quoi qu'il arrive, si on devait négocier une telle adhésion, on devrait abandonner notre souveraineté monétaire. Ça veut dire garder notre monnaie, ça veut dire surtout garder une banque centrale qui peut faire ce qu'elle a fait récemment, c'est-à-dire avoir une action réellement dans l'intérêt de la place économique. Le grand drame des pays européens aujourd'hui, c'est qu'ils doivent se servir seulement sur le marché des capitaux privés, c'est-à-dire passer par les banques. Les banques reçoivent des capitaux de la Banque Centrale Européenne presque gratuitement, puis ensuite le reprêtent aux propriétaires de la Banque Centrale Européenne, que sont les nations européennes, à des taux qui sont presque usuraires. Ce schéma-là me paraît, c'était déjà un des défauts dans le traité de Maastricht qu'avec d'autres j'avais identifié, et je pense que c'est un des aspects importants. C'est une souveraineté qui permet une politique économique globale pour notre pays.
Êtes-vous plutôt Jean-François Rim ou Hans-Jörg Walter ? Vous n'êtes pas dans les votants de mercredi.
Moi, je connais très peu Jean-François Rim. Je l'ai croisé quelques fois, mais j'ai bien connu Hans-Jörg Walter. J'ai siégé avec lui à la commission des finances et j'ai beaucoup de sympathie pour lui. J'ai essayé à l'époque de défendre politique agricole équilibrée pour notre pays, souvent avec des positions qui lui étaient proches. Donc je choisirais plutôt Anne-Sophie Walter.
Couchepin ou de la Murat ?
De la Murat. De la Murat, dont je dis une chose qui est très importante. Jean-Pascal de la Murat, au début des années 90, avait tenté un contrôle politique de l'évolution des taux hypothécaires. La Banque nationale prêtait de l'argent aux banques, elle avait massivement augmenté ses taux, ce qui avait conduit à une massive et brutale augmentation des taux hypothécaires qui avait mis à genoux bonne partie des propriétaires immobiliers, de ceux qui payaient des intérêts encore modestes à la fin des années 80 et qui tout à coup se retrouvaient dans des situations de faillite personnelle avec un effondrement du marché immobilier, une restructuration brutale. Jean-Pascal de la Murat avait proposé de contrôler cette politique du taux et de limiter un peu l'absolue indépendance de la Banque nationale. Il s'était fait vraiment mépriser. Et pour moi, ça a été un des tournants.
C'est un socialiste au fond.
Il avait une politique radicale équilibrée des origines. Je rappelle que les radicaux sont ceux qui ont inventé les banques cantonales, à l'époque où justement le marché privé des banques à la fin du 19e n'irriguait plus suffisamment l'économie intérieure. Et cette tradition, elle s'est un peu perdue après justement ce tournant qui a été ce début des années 90 où Jean-Pascal de la Murat a été vraiment lâché par les siens. Ça a été pour moi le moment, on en a peu parlé, mais le moment où la politique suisse a tourné vers un axe néolibéral beaucoup plus marqué.
Un prolongement vaudois, au fond, dans son action, que vous pourriez incarner.
Si je peux marcher dans quelques traces de valeur, pourquoi pas, mais c'est évidemment une ambition qui me paraîtrait un peu exagérée. Chacun a ses caractéristiques, mais c'est vrai que ce moment-là, j'y ai repensé en préparant cette candidature.
24 heures ou le temps, Pierre-Yves Maillard ?
Ça, c'est vraiment difficile. Non, je lis les deux. Je suis abonné aux deux. Désolé, je ne peux pas trancher. J'ai besoin des deux parce que 24 heures, c'est la politique régionale, c'est l'intérêt au canton. Et puis Le Temps, je trouve que c'est un journal de qualité qui informe bien sur l'ensemble des dossiers nationaux et internationaux.
Votre concurrent Alain Berset, c'était vendredi, il nous déclare n'avoir jamais fumé un joint. Vous non plus, vous n'avez jamais usé de ces substances, Eric Maillard.
Non, j'ai dû goûter une fois, oui, j'ai goûté une fois, mais je crois que c'était un autre... Ça s'appelait autrement, mais ça se fumait aussi. Mais non, j'ai pas du tout été consommateur de substances illicites. Surtout par goût d'ailleurs, enfin par manque de goût justement.
Je vous remercie beaucoup, Pierre-Yves Maillard.
Ni d'ailleurs de...
D'autres drogues, rassurez-vous.
Ni d'autres drogues, ouais. C'est pour moi toujours important d'essayer de garder un minimum de contrôle de soi.
J'imagine dans ses fonctions, dans deux jours, peut-être une autre qui arrive, c'est le 14 décembre. Merci beaucoup Pierre-Yves Maillard.
Merci à vous.
Pierre-Yves Maillard interrogé tout à l'heure avec Nicole Lamont, c'était à Lausanne il y a quelques minutes. L'élection, c'est le 14 décembre, ce mercredi, on l'a noté, une émission à suivre bien sûr sur la première en direct. Et puis demain soir, Forum sera en direct des pas perdus, avec en primeur les dernières décisions des partis politiques avant la longue veillée finale.
Forum, Philippe Reva, Laurent Caspary.
Et à 18h44, le grand plaisir de recevoir trois Russes de Suisse dans nos studios de Fribourg et de Genève. Ils sont avec nous pour nous aider à comprendre ce qui se passe en Russie, peut-être ce qui va se passer aussi sur le front des contestations, des élections, les contestations du pouvoir de Poutine. Avec nous, Pavel Spiridonov, doctorant à l'Université de Lausanne en section langue et slavistique, en Suisse depuis 10 ans. Katia Skila, cinéaste à Genève. Et puis, Ilya Novikov, étudiant en relations internationales à l'Université de Genève. Bonsoir.
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 Aujourd'hui, Vladimir Poutine s'est exprimé, Ilya Novikov, pas de remise en question des élections, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. Dites-nous peut-être d'abord, de votre point de vue, comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a une contestation en Russie, il n'y en avait pas de cet ordre de grandeur-là avant. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bon, tout d'abord, je vous remercie de cette extraordinaire opportunité et de l'intérêt que vous portez à la situation en Russie en ce moment. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, je trouve. C'est du jamais vu depuis 20 ans, 40 000 personnes à Moscou. Plus de 100 000, je pense, à travers le monde. J'ai été l'un d'eux ici à Genève, samedi, à manifester.
Pourquoi est-ce que ça prend cette fois-ci ?
Pourquoi est-ce que ça prend ? On s'est posé à peu près la même question il y a un an pour les pays arabes. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une étincelle qui a été à l'origine de ce brasier qu'on voit en ce moment. Et ce que les Russes pensaient ou parlaient ou discutaient, débattaient dans leur cuisine, aujourd'hui, ils le portent dans la rue. Et bon, évidemment, les réseaux sociaux, Internet ont été une cause. Ils ont été sûrement inspirés par ce qui se passe à travers le monde. Mais je pense que c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Tout le monde parle aujourd'hui de fraude électorale. On en parle dans les médias, dans les journaux, dans les rues. Mais à mon avis, la cause profonde, c'est... vraiment comment dire, la désillusion, le discrédit de l'État. Et surtout, on voit tout un peuple qui a ras-le-bol de tout cet arbitraire, de toute cette corruption dont on souffre depuis 20 ans. On veut qu'il y ait un dialogue, on veut qu'il y ait du progrès, on veut qu'il y ait du pluralisme politique. Et la seule façon d'avoir accès à ça, c'est des votations démocratiques libre. Et ouvertes.
Pavel Spiridonov, vous êtes en direct de notre studio de Fribourg. Vous partagez cette analyse. Qui est dans la rue, d'après vous, aujourd'hui? C'est l'opposition? C'est monsieur et madame tout le monde?
À mon avis, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est pas vraiment l'opposition, c'est plutôt ce qu'a dit monsieur Novikov, c'est vraiment un ras-le-bol général lié au fait que quelques derniers mois, le pouvoir ne fait plus attention aux gens, ne fait plus même semblant s'intéresser à ce que les gens pensent, notamment les dernières congrès de parti Russie Unie qui a juste désigné le changement au pouvoir entre président et premier ministre sans penser qu'il y a encore les élections à faire. Et à mon avis, c'est plutôt les gens simples qui sont un peu réveillés, qui sont sortis dans les rues pour manifester leur mécontentement.
Est-ce qu'on peut dire, Pavel Spiridonov, en France, c'était un peu gros, c'était trop gros, quoi, cette fois, c'est ça. Ils ont tenté un truc un peu trop évident.
Trop évident et trop grossier aussi.
Avec nous, Katia Skila, en direct de Genève, on vous remercie d'être en direct avec nous également, parmi trois Russes qui nous expliquent ce qui se passe en Russie, de leur regard. Katia Skila, on disait, il y a une étincelle cette fois-ci, quelque chose qui a fait que les gens sont descendus dans la rue beaucoup plus nombreux, que cette fois-ci ne veulent pas laisser passer la situation. Qu'est-ce que c'est cette étincelle? Qu'est-ce qui a provoqué tout ça cette année?
À mon avis, c'est les gens, ils veulent se dépasser sans peur en fait. Parce que la peur, c'est la chose qui existe depuis des années, des années, des années en Russie. La peur des autorités, la peur du pouvoir. Donc maintenant, les gens, ils se disent que maintenant, ils peuvent dépasser cette peur et aller s'exprimer librement, tranquillement surtout. C'est ça qui m'a bien plu, que c'était tranquille, aucun problème. On a dit bonjour à la police, on a dit au revoir à la police, donc tout va bien. Et surtout que les gens ils peuvent se manifester.
Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus peur?
En fait, je crois que c'est ça, les changements. Parce que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on peut se réunir, on peut se retrouver, discrètement par rapport aux autorités. Donc ça donne une espèce de liberté, la liberté qui on n'a jamais eue en Russie, parce que tout était surveillé, tout était contrôlé. Donc maintenant, il y a tout qui est ouvert. On peut dire n'importe quoi, n'importe où. Donc les gens, ils lisent les commentaires et tout ça. Et donc maintenant, cet champ des expressions libre. Donc, c'est ça qui fait pousser, en fait, les initiatives comme ça.
Est-ce que ça peut durer? Est-ce que cette étincelle peut se transformer en flamme qui va brûler jusqu'au printemps? Est-ce que le pouvoir, d'après vous, va laisser une opposition, qu'elle soit organisée ou pas, s'installer dans ces rues? Ilya Novikov, vous pensez que ça peut durer?
Oui, tout à fait. Je pense que ce qui s'est passé depuis quelques jours en Russie, tout comme ce qui s'est passé dans les pays arabes et ailleurs à travers le monde cette année, c'est vraiment un phénomène qui laisse un champ énorme de possibilités, mais en tout cas, ce qui est impossible, c'est un retour en arrière. Une fois qu'il y a eu cette étincelle, une fois que les personnes ont réalisé qu'ils peuvent prendre en main leur propre destin, leur propre avenir, c'est impossible d'arrêter, comment dire, la marche en avant. Et bien évidemment, il y aura plus de protestes, il y aura plus de démonstrations, il y aura, vous verrez dans les mois à venir, et surtout en mars, avril, avec les élections présidentielles.
Pavel Spiridonov, vous y croyez, vous? On peut faire le parallèle, printemps arabe, hiver russe ou printemps russe bientôt?
J'espère qu'on ne pourra pas faire le parallèle au niveau de violence. À mon avis, ce qui était très bien, c'est justement le calme de dernière manifestation à Moscou. Prochaine manifestation prévue pour le 24, il y a une demande pour 150 000 personnes pour manifester à Moscou. J'espère que tout va se passer aussi dans le calme. à mon avis, c'est un peu le, ça devrait être le but hein, de, il faut faire plier le pouvoir par les manifestations pacifiques.
Vous êtes aussi
parce qu'on on a vu les jours, deux jours qui ont suivi les élections que le pouvoir peut être assez brutal. Mmh. Et on sait ça en Russie depuis toujours. Donc, mais il y aura, j'espère qu'il y aura la suite, bien sûr. Hein. Katia Skila. Il faut attendre les résultats de réaction du pouvoir.
Hein. Même question, Katia Skila, printemps arabe, hein, c'est ambitieux comme programme. Est-ce que la Russie doit se préparer à un changement de cette ampleur?
Ben, moi, j'espère pas, en fait, parce que les révolutions, bon, moi, je viens de Saint-Pétersbourg, c'est la ville qui a accueilli trois révolutions. Donc, mais je crois pas que c'est une bonne solution parce que maintenant, nous, on a fait, nous, les citoyens, on a fait le test de notre pouvoir. Et maintenant, on attend les réponses de gens, des forces, de nos présidents, de nos candidates. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont réagir? Moi, je crois qu'il y a une, ils ont encore plein de surprises à nous montrer. Donc, on verra qu'est-ce que ça va se passer. Mais je suis d'accord avec Ilya qui a dit qu'on ne peut pas reculer en arrière.
Mais ça veut dire que vous faites toujours confiance aux élites actuelles de changer vraiment ceux qui sont en place ou leur administration?
Ben, moi, je ne crois pas qu'ils peuvent se changer comme ça en seul coup. Moi, je crois qu'ils peuvent. C'est un processus qui vient de démarrer, donc il n'y a rien qui se passe aujourd'hui et le lendemain, bon, sauf les révolutions. Mais justement, à mon avis, il n'y a pas grand-chose pour remplacer les pouvoirs de maintenant. Mais par contre, il y a quand même des gens qui sont prêts de prendre le pouvoir, donc et assurer quelque chose correct. Mais bref, on verra bien, parce qu'il n'y a rien qui se fait.
Précisément, les présidentielles, on connaît déjà le résultat, plus ou moins, à moins qu'un nom émerge tout d'un coup dans l'opposition. Mais on sait très bien que Vladimir Poutine a, on va dire, 99% de chances d'être le prochain président de la Russie. Comment ces manifestants qui sont aujourd'hui dans la rue vont accepter la chose? Parce qu'après, c'est reparti pour 5 ou 6 ans maintenant. La durée du mandat présidentiel a été augmentée. Donc, on repart pour un mandat avec Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev. Les gens vont l'accepter?
Ilya Novikov.
Eh bien, je pense pas que les gens vont l'accepter, en tout cas pas facilement. Mais je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que Vladimir Poutine a 99,9% de chances de passer. Il y a des candidats qui s'annoncent d'opposition. Je crois que c'était aujourd'hui même que M. Prokhorov, le grand milliardaire russe libéral, s'est présenté à l'élection. Il a une chance aussi. Mais de toute façon, je pense que la...
Katia Skila sourit. Hein, vous n'y croit pas trop, manifestement.
Bon, on est libre de penser ce qu'on veut. Mais en tout cas, ce qui est sûr pour moi, c'est que... la balle est dans le camp des autorités en ce moment en particulier, je pense. Mais je vais faire encore un parallèle avec le monde arabe. Je vois deux scénarios qui sont possibles pour l'avenir. Soit il y aura un dialogue qui va se construire, et je pense que l'élite étatique russe en a vraiment besoin aujourd'hui pour gagner la légitimité et la crédibilité qu'elle a perdue entièrement depuis quelques jours, et pouvoir survivre tout simplement. Et alors on pourrait voir un état de droit, une démocratie se former en Russie, éventuellement dans l'avenir. Ou bien on tombe dans un repli totalitaire, et alors il y a de fortes chances que à l'avenir, d'ici peut-être 5 ou 10 ans, mais en tout cas la Russie de Poutine va tomber tout comme la Libye de Kadhafi ou l'Égypte de Moubarak.
Oui, Ilya Novikov, beaucoup de comparaisons avec les pays arabes et ce printemps dont on a beaucoup parlé. Pavel Spiridonov, quand on dit qu'il n'y a pas d'alternative, je crois que c'est Katia Skila qui l'a laissé entendre. Je crois que c'est Eric Oesli sur nos ondes récemment, un grand spécialiste aussi de la Russie, qui nous disait mais les gens ne veulent pas non plus des libéraux, ils ne veulent pas de l'alternative libérale parce qu'ils ont fait beaucoup trop de restructuration à l'époque très très malheureuse. C'est vrai ça, il y a pas de, on a personne en face pour remplacer Poutine?
Bah, la question, je pense qu'en ce moment, ce n'est pas de trouver quelqu'un qui est capable de remplacer Poutine. À mon avis, le programme minimum, c'est de faire en sorte que les élections présidentielles seront difficiles pour Poutine. Mmh. Qu'il n'arrive pas à faire ça en un seul tour, par exemple.
C'est-à-dire changer Vladimir Poutine, lui faire comprendre que son pays a changé et qu'il doit aller dans la direction de son peuple.
C'est le message le plus compliqué à passer, surtout effectivement ce qui était dit avant, c'est que les élites se sont complètement discréditées. Je vois pas comment on peut entamer la discussion avec, hein, même si, s'il faut le faire éventuellement. Mais là, en ce moment, effectivement, il n'y a personne qui a la même envergure politique et qui a la même occupation de place médiatique en Russie que comme Poutine et Medvedev. Mais on va voir, je pense que les prochaines semaines vont être très intéressantes car on va voir la réaction ou non-réaction du pouvoir. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer, Poutine va sacrifier pour garder le pouvoir. On n'est même pas sûr que Medvedev va rester, par exemple.
Medvedev, bien, Katia Skill, a beaucoup d'espoir sur lui au début. On disait, ouais, c'est un peu le visage le plus libéral de Poutine. On y croit encore, Medvedev, en Russie. On se dit, non, c'est l'autre face de Poutine.
Bah, à mon avis, Medvedev, c'est fini déjà, parce que c'était juste une petite marionnette qui a pris le pouvoir, donc sous l'œil d'un grand dirigeant, d'un cardinal gris, comme on dit. Donc non, moi je crois que Medvedev, il a pas. Il peut rester peut-être à côté de pouvoir, mais c'est bon quand le président, il est pas intéressant.
Ilya Novikov, quand on voit tout ce qui se passe en Russie, vous regardez ça de Suisse aujourd'hui, et puis la question aux autres aussi, peut-être on n'a pas envie d'y aller, on se dit, quel rapport avec la Russie? On en était déçu peut-être pendant un certain temps, on se dit, ah là, ça bouge, on a envie d'en être, on brûle d'en être.
Oui, tout à fait. Je pense que, vous paraîtrez peut-être un peu trop enthousiaste, mais je pense véritablement qu'une nouvelle société russe est en train de naître. Une société engagée, ouverte sur le monde extérieur et qui demande un changement positif. Et tout à fait, je trouve que c'est très, très intéressant et je veux y participer. Je me sens plus fier d'être russe aujourd'hui que je ne l'ai jamais été et je l'ai toujours été. Et si je puis juste avoir l'opportunité de rajouter quelque chose... Je pense pas que c'est les présidents, même les députés, qui déterminent l'avenir d'un pays, mais son peuple.
D'accord, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, Ilya Novikov. Beau message. Le peuple qui décide, tant mieux. On verra ça dans les mois qui viennent. Katia Skila avec nous, Ilya Novikov et Pavel Spiridonov. Je vous remercie beaucoup d'être venus dans nos studios. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci.
Merci.
Stéphanie Coller, la météo.
Le temps est sec depuis quelques heures sur le plateau. En Valais, les précipitations vont bientôt s'arrêter. Ensuite, le ciel va se découvrir de plus en plus au fil des heures. La nuit sera claire et froide. Les températures seront négatives en plaine. Cette nuit et demain, il y aura un risque de verglas. Si vous prenez la route, soyez très prudent. Aux premières heures du jour, il y aura quelques brèves éclaircies. Puis les nuages rempliront rapidement tout le ciel. Le temps sera très nuageux et peu lumineux. Dans les Préalpes et le Jura, la pluie débutera en cours d'après-midi. Elle s'étendra au plateau, puis au Valais en fin de journée. En montagne, un courant de sud-ouest sera fort, parfois même tempétueux. Des rafales souffleront au nord du plateau. Elles pourront être très fortes. L'après-midi, entre 7 et 10 degrés. La limite pluie-neige remontera vers 1800 mètres pour redescendre vers 1400 la nuit suivante.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute Berne-Fribourg, un bouchon s'étend de Niederwangen à Flamatt, car la voie de gauche est bloquée en direction de Fribourg. En sens inverse, sur le même tronçon, le trafic est perturbé, car la berne centrale est déformée. Retourne à la normale à 19h30 environ. Fin de ce forum. Pascal Lamy est invité du Journal du Matin. Demain, le directeur général de l'OMC. On remercie Bernard Combes et Sylvain Michel à la technique et on vous souhaite une excellente soirée sur la première, 19h.